France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Barthélémy Gaillard, Louan Deniel et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le premier volet de notre série consacrée aux enjeux du patrimoine, ce trésor des nations, aujourd'hui sur la piste du trafic illicite.
Le vol des antiquités et le pétrole, c'était la principale manne financière de Daesh. Les pillages qu'ils ont effectués partout ont saturé les marchés mondiaux. Ça débordait d'antiquités volées de Syrie, d'Irak et de Palmyre en particulier. Ils ont fait semblant de détruire certaines antiquités, mais pour une statue qu'ils défiguraient, ils en volaient 100 autres.
Peu de temps après un pillage à Kherson, certaines peintures ont été identifiées à Simferopol, en Crimée occupée. L'information est apparue sur les réseaux sociaux et des employés du musée d'art de Kherson ont reconnu leur collection.
Des pillards ont volé des trésors italiens et les ont importés aux États-Unis. Les antiquités restituées aujourd'hui avaient donc été volées dans leur pays d'origine pour être passées en contrebande par des personnes recherchant le profit.
Ce qu'on appelle aujourd'hui trafic, on le nommait jadis pillage en 1861, un an après le pillage en Chine du palais d'été de l'empereur Xianfeng. Victor Hugo, en exil à Guernesey, écrit à ce sujet. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Imaginez, on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire. Bâtissez un songe avec du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries. Drapez-le de soie, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Un jour, deux bandits sont entrés. L'un a pillé, l'autre a incendié. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches, ce que voyant, l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. À l'époque, les deux bandits ainsi nommés sont l'Angleterre et la France, laquelle en particulier étalera le splendide bric-à-brac du palais d'été avec une naïveté de propriétaire. Aujourd'hui, le recel des biens pillés à Palmyre, en Syrie, à Mossoul, en Irak ou dans les territoires occupés en Ukraine se fait plus ou moins discret selon l'auteur du vol. Mais les musées, y compris les plus prestigieux, ne sont pas à l'abri d'acheter sans le savoir une œuvre vilement arrachée au peuple qui les avait imaginées et conçues. Le trafic illicite de biens culturels est multiforme. Il implique parfois des États, parfois des groupes djihadistes comme Daesh, parfois des réseaux criminels structurés et parfois tout ça en même temps. La convention de l'UNESCO de 1970 reste un texte majeur pour prévenir leur importation, leur exportation, leur transfert. Mais comme ça ne suffit pas, l'institution a lancé récemment un musée virtuel des biens culturels volés qui raconte la part d'identité et de mémoire de sa communauté d'origine, de leur communauté à ces biens volés. Car piller des biens culturels, c'est arracher la page d'un livre d'histoire. Bonjour Vincent Négri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste, chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique ENS Paris-Saclay, spécialiste du droit international de la culture et du patrimoine. Et nous sommes en duplex depuis Montpellier dans les studios d'ICI Héros avec Mathilde Murat. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous également. Vous êtes archéologue, professeur junior à Aix-Marseille Université, chaire patrimoine, conservation, menaces et valorisation rattachée au Centre Camille Julian. Vous êtes Mathilde Murat, spécialisée en archéologie des pays en conflit. Alors commençons par là avec vous deux. C'est l'un des aspects du trafic illicite de biens culturels, le pillage des œuvres, non pas que vous observez Mathilde Murat, non pas à la fin de la chaîne dans les catalogues de vente, mais sur le terrain directement. Prenons un site que vous avez étudié, que ce soit en Irak ou en Afrique du Nord. Comment est-ce qu'on repère ce qui a été pillé ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pense souvent au trafic par le prisme du marché et des musées qui peuvent malheureusement être également acquéreurs de pièces acquises illégitimement dans les pays. Mais effectivement, le trafic commence sur les sites archéologiques. Et en ce qui me concerne, j'ai analysé des sites en Syrie, en Irak Et donc, on voit bien que ces sites-là sont perforés de trous, des trous qui peuvent être de taille très variable, qui peuvent être effectués à la main par des pillards. Et dans les périodes plus récentes, avec l'arrivée de l'État islamique notamment, on voit la mécanisation de ces pillages avec des stigmates qui sont de plus en plus importants, de plus en plus profonds, et donc des dommages qui sont très importants sur les sites archéologiques.
Comment vous observez ces vols d'objets ? Est-ce que vous allez toujours systématiquement sur le terrain de longues journées, ou est-ce que vous regardez aussi et surtout des images satellites ? Et est-ce que vous pouvez jusqu'à évaluer le nombre d'objets volés ou prélevés, comme on dit, et même la manne financière que ça représente ?
Alors en fait, on travaille effectivement pendant la situation de crise ou de conflit, on travaille à distance. On va monitorer, comme on dit, les sites archéologiques avec des images satellites. Donc on va comparer à intervalles réguliers des images pour voir l'apparition de ces trous, leur répartition spatiale, comment ça s'étend sur le site. Et ensuite, pour s'assurer de notre lecture des images satellites, on va, quand c'est possible, faire une vérification de terrain, mesurer les trous, vérifier la profondeur et éventuellement documenter aussi les niveaux qui ont été perforés, le type d'objets qui peuvent avoir été extraits.
Alors Vincent Négri, les images satellites sont précieuses, surtout sur des sites qui sont concernés, entourés, qui sont en guerre tout simplement. Simplement, qu'est-ce que les images satellites ne disent pas par ailleurs de, qu'est-ce qui manque quand on veut avoir une connaissance la plus précise possible de ce qui a été pillé et par qui ?
Ces images nous racontent une histoire, mais cette histoire, elle est très factuelle. C'est-à-dire qu'on va voir la progression du pillage par l'image satellite. Mais ce qui est derrière, c'est quels sont les acteurs. Et ces acteurs-là, il faut aller les identifier pour comprendre les processus qui sont à l'œuvre dans ces pillages. Il me semble que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on a assisté à une forme d'industrialisation du pillage et du trafic illicite. Et notamment dans les terrains qu'évoquait Mathilde Murat, à savoir en Irak, en Syrie et parfois au-delà, c'est-à-dire que les conflits ont été l'occasion de développer, d'amplifier le pillage et d'en faire une vraie industrie au service d'un projet politique, d'un projet territorial, d'un projet de domination. Et donc l'État islamique a fait du pillage une des ressources pour financer son action.
À Palmyre, par exemple, si on devait prendre un site emblématique de ce pillage, Palmyre, joyau architectural dans le désert syrien, à l'entrée de la ville, le musée qui existait est aujourd'hui presque entièrement vide, les objets ont été pillés, les statues décapitées ou détruites à coups de masse, en particulier par l'État islamique, mais cela nourrit tout un réseau local et international en Syrie.
Venez voir, je vous montre comment ça marche. Quand il tombe sur un truc de valeur, en général, il fait plein de sons.
Et ça coûte combien ?
450 euros. Je les fais venir de Turquie jusqu'ici. C'est interdit, donc on doit les cacher dans d'autres marchandises. On fait ce business depuis la libération. Regardez cette pièce de monnaie. Je l'ai trouvée en creusant. Je l'ai détectée grâce à cette super machine. Cette pièce, elle était enfouie dans une maison traditionnelle. Elle a plus de 1000 ans.
Si je me balade dans la rue avec, que je le ramène à la maison, il n'y a pas de problème.
Si on te demande, tu dis que c'est un jeu pour les enfants.
Ok.
Un vendeur de détecteurs de métaux au souk d'Alep qui témoignait dans le grand reportage d'Arthur Saradin et Noé Pignède pour France Culture sur la trace des passeurs d'antiquités au mois d'octobre. Vincent Négri, dans quel cas de figure est-on là ? Comment est-ce qu'on distingue et est-ce qu'il faut distinguer le pillage, disons, de subsistance de gens qui vivent sur place et qui viennent de temps en temps prélever quelque chose, dans l'espoir que ça leur permettra de nourrir leur famille, du pillage beaucoup plus organisé, mécanisé, comme vous le disiez ? Est-ce que ces détecteurs de métaux font partie de la mécanisation ou ça reste très amateur ?
Alors, je pense que on n'est pas dans l'amateurisme, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de planification et dans la recherche d'un profit direct. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut distinguer le cas des populations qui sont dépourvues de tout moyen de subsistance et qui finalement se retrouvent à creuser le sol sous leurs pieds d'un site dont elles étaient parfois les gardiens. Donc, je crois qu'il faut aussi le rappeler et que c'est on sait. On voit par